Absolument courant, lorsque l'on rentre dans une église pour y adorer Dieu, d'entendre de la musique instrumentale accompagnant le chant de l'officiant et du public. Certains se rendent même le dimanche dans une église particulière pour entendre tel ou tel organiste célèbre jouer de l'orgue d'une manière spécialement brillante. Cependant, au cours de ces dernières années, on a introduit dans les églises catholiques et protestantes des ensembles instrumentaux dont les accords particulièrement sonores font résonner les voûtes des édifices. Les guitares électriques, tam-tam, trompettes et autres accordéons s'en donnent à cœur joie et le public réagit de manière différente selon son âge ou son degré de sagesse. On s'insurge, on approuve ou on s'interroge sur le bien fondé et même l'utilité de l'emploi d'instruments de musique au cours d'un office religieux. Les responsables religieux essayent d'expliquer à leurs ouailles qu'un instrument en vaut un autre, que ce soit un orgue solennel ou une guitare stridente. À l'heure où tout est remis en question, certains se demandent même avec justesse ce que Dieu lui-même pense de tous ces instruments de musique généralement quelconques dont on se sert pour prétendument l'adorer. Je vous propose de vous pencher avec moi sur la Bible, unique source d'enseignement spirituel capable de répondre à cette importante question. Toutefois, avant d'aborder cette étude, il me paraît utile de souligner le fait que nous vivons aujourd'hui sous la juridiction des enseignements de Jésus-Christ et non sous celle de la loi et des prescriptions données au peuple juif et qui s'appelle l'Ancien Testament. Nous allons donc ensemble plonger nos regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, c'est-à-dire le Nouveau Testament. Une lecture tant soit peu attentive de l'ensemble des livres constituant le Nouveau Testament permet d'emblée de découvrir un élément essentiel. Il n'y est jamais question que de chant. Mais écoutez plutôt. Matthieu 26, 30. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent, c'est-à-dire les apôtres, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Acte 16, 26. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Romains 15, 9. Je chanterai à la gloire de ton nom. À Corinthiens 14, 15. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Éphésiens 5, 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Colossiens 3, 16. Exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Jacques 5, 13. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Il s'agit donc bien ici d'un véritable ordre émanant de Dieu. Il faut chanter. Est-il nulle part question en matière d'adoration de chanter et d'être accompagné par un instrument quelconque? Non. Mille fois non. Le Nouveau Testament n'en souffle mot. Vous me direz, mais est-ce tellement important? Pour moi, oui, sans nul doute. Souvenez-vous de Noé. Dieu ne lui a-t-il pas spécifié expressément qu'il devait construire l'arche en bois de gophret? S'agissait-il d'un autre bois? Dans la loi de Moïse, il était stipulé que le septième jour était le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Il était question pour les Juifs du sabbat et de nul autre jour. En Matthieu 26, 26, il nous est dit que lors de l'institution de la Sainte Cène, Jésus prit du pain sans levain et au verset 27 à 29, qu'il tendit du fruit de la vigne à ses apôtres. Lorsque nous commémorons la mort de Jésus-Christ, comme il nous l'a ordonné, prenons-nous de la tarte et de la limonade? Pourquoi? Mais tout simplement parce que ce n'est pas là ce que Jésus nous a dit de faire. Et il doit en être exactement de même en ce qui concerne le commandement d'avoir à nous entretenir par des cantiques spirituels en chantant de tout notre cœur. Cela constitue-t-il une licence d'y ajouter qui une guitare, qui un orgue, qui un accordéon? Qu'en pensez-vous? Il ne faut pas que nous perdions de vue ce que l'apôtre Jean nous dit. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Les instructions que nous donne Jésus dans la Bible doivent pleinement nous suffire, puisque nous selon 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Point n'est donc besoin d'autre chose, et surtout pas de doctrine ou de traditions humaines. Dieu, en nous ordonnant de chanter dans le culte que nous lui rendons chaque premier jour de la semaine, nous offre un triple moyen de l'adorer. Premièrement, le louer ou célébrer ses louanges. En effet, l'apôtre Paul, en écrivant aux Hébreux, lance l'exhortation suivante. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. On voit mal comment un instrument de musique pourrait remplir ce but avec ce fruit des lèvres. Deuxièmement, s'instruire, s'exhorter mutuellement. La lecture du troisième chapitre et du verset 16 de l'Épître aux Colossiens suffit à nous en convaincre. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. À nouveau, il faut logiquement conclure que jamais un instrument de musique ne peut chanter spirituellement des psaumes, des hymnes, des cantiques. Troisièmement, dire ce que l'on ressent. Bien sûr, en s'adressant directement à Dieu. Jacques dépeint parfaitement ce sentiment lorsqu'il s'écrit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie ? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques ?» Il s'agit encore ici d'exprimer par des paroles ce que l'on a sur le cœur. Autrement dit, d'implorer Dieu dans la tristesse ou la souffrance, et par contre, de lui rendre grâce par la joie, le bonheur que l'on reçoit de lui. Il ne s'agit donc pas de traduire ses sentiments par un mouvement mécanique des doigts sur une touche, un piston ou une corde, ou même de l'air soufflant dans une embouchure. N'allez surtout pas croire que je suis hermétique à toute musique instrumentale, loin de là. J'apprécie au contraire beaucoup la musique, croyez-le, et particulièrement la musique symphonique. Mais notre propos est de nous entretenir du culte que chacun doit rendre à Dieu. Cette adoration doit essentiellement être conforme aux vœux de notre Créateur, sans quoi elle serait vaine, inutile, voire même blasphématoire dans certains cas. Souvenez-vous que Paul et Silas, lorsqu'ils étaient en prison, priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils le faisaient donc dans des circonstances particulièrement dramatiques, ce qui souligne le fait qu'ils attachaient une extrême importance à leur chant. Il ne s'agissait pas d'un amusement ou d'un rite, mais bien d'une expression du cœur. En 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 15, les Écritures nous disent « Que faire donc ? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Voilà donc bien la quintessence du chant chrétien. Il extériorise par des mots ce qui vient du plus profond de l'esprit et de l'intelligence. Il exprime des sentiments spirituels par des psaumes, des hymnes et des cantiques. Et ceci ne peut se faire à l'aide d'instruments de musique. Nombreux sont ceux qui rétorqueront que la grande variété d'instruments à percussion, à cordes et à vent était utilisée dans l'Ancien Testament. Tout cela est parfaitement exact. J'ajoute même que les sacrifices sanglants, les parfums, la polygamie étaient également de pratiques courantes. Pourquoi ne sont-ils plus utilisés de nos jours? Tout simplement parce que nous vivons de ce côté-ci de la croix et que l'ancienne alliance ne nous concerne plus. C'est ce que font ressortir de nombreux passages bibliques, et notamment Hébreux 8:7 et Hébreux 10:9, qui disent « En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. » Jésus-Christ abolit la première chose pour établir la seconde. Vouloir observer les prescriptions de l'Ancien Testament nous mettrait dans la même position que la femme adultère décrite en Romains, chapitre 7, versets 1 à 4. La loi de Moïse a été littéralement clouée à la croix par le Sauveur. Et l'apôtre Paul nous met en garde en ces termes. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. D'aucuns diront encore que le Nouveau Testament n'interdit pas expressément l'utilisation des instruments dans le culte. C'est tout à fait exact. Toutefois, il n'existe pas un seul exemple, toujours dans le Nouveau Testament, permettant de supposer que les apôtres ou même les chrétiens du premier siècle adoraient l'Éternel en s'accompagnant d'instruments. Une chose est certaine, c'est que par contre, il nous est ordonné de chanter de la bouche des cantiques spirituelles de tout notre cœur à l'aide de notre intelligence et de notre cœur. Il est donc absolument certain que Dieu agrée un culte au cours duquel les chrétiens chantent. Par contre, qui peut garantir qu'il en va de même pour une adoration exprimée à l'aide d'instruments mécaniques de musique? D'un côté se trouve le terrain sûr et inébranlable de ce qu'ordonne la parole de Dieu, et de l'autre s'étendent les sables mouvants des suppositions, des théories humaines et des traditions que personne n'interroge plus depuis très longtemps. D'ailleurs, le vieux dicton ne dit-il pas avec sagesse, dans le doute, abstiens-toi. La seconde épître de Jean nous avertit sans aucun équivoque. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. On dit encore que les instruments de musique ne sont employés que pour aider la voix, pour l'accompagner. Vous savez fort bien qu'il n'en est rien. Allez dans n'importe quelle église et vous verrez et entendrez que ce n'est pas vrai. En règle générale, l'orgue, l'harmonium, la guitare ou l'accordéon sont là pour la réunion, le culte ou la messe, pour les rendre plus étoffés, pour que l'atmosphère soit plus grandiose ou plus prosaïquement plus attirante. Il est vrai que le chrétien est libre, mais le mot « liberté » ne signifie nullement « permission ». Le livre des Galates, chapitre 5 et le verset 13, dit bien « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. » Vous avez certainement encore entendu dire qu'il existe de la musique instrumentale au ciel et que par conséquent, on peut en avoir sur la terre. La Bible ne dit absolument pas. Il existe bien des versets tels que celui d'Apocalypse 14:2, où Jean relate « Et j'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix était comme celle d'un joueur de harpe jouant de leur harpe. » Ces versets, ainsi que d'autres, tirés de l'Apocalypse, font partie du contexte d'une série de visions et ne permettent pas de prouver que Dieu approuve l'utilisation d'instruments de musique dans le culte chrétien. Rappelons-nous avec certitude qu'il nous est commandé de chanter et jamais de faire usage d'un instrument de musique dans notre adoration vis-à-vis de Dieu. N'oublions pas non plus qu'on ne peut plaire à Dieu sans la foi et que la foi ne peut être obtenue que par la connaissance de la parole de Dieu. Si cette même parole ne nous dit pas d'utiliser des instruments, c'est que le Créateur ne le désire pas, sinon il nous l'aurait nettement spécifié. Je livre tout ceci à votre sage méditation. Qu'en ferez-vous? Vous êtes avec moi de l'éducation biblique. Au micro, Jacques Marchal. Chers amis, bonjour. De méditation biblique. Au micro, Jacques Marchal. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre. Je vous répondrai personnellement, je vous le promets. Vous pouvez également vous envoyer le texte intégral de cette pensée gratuitement. Jacques Marchal, 6, Étienne Falconet, 3130, Palma. Jacques Marchal, 6, Étienne Falconet, 3130, Palma. À bientôt, mercredi prochain, même heure. Et que le Seigneur garde. Une conférence traitant le sujet Osez-vivre sera donnée par Yann Optich de Montpellier demain soir 27 novembre à 20h en notre local 64 rue du Caillou Gris à Toulouse Minimes. Venez nombreux, nous ferons connaissance. Entrée gratuite.